RCF. Professeur Alain Deloche, le cœur, cet organe si précieux, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous le connaissez bien. En tant que chirurgien, vous en avez opéré des milliers en France et dans le monde. Célèbre chirurgien cardiaque, vous étiez déjà en 1968 dans l'équipe qui a pratiqué la première greffe du cœur, qui a réussi en France avec le professeur Charles Dubost. Mais parallèlement à votre carrière de cardiologue, vous vous êtes engagé, et ce depuis 50 ans, dans l'action humanitaire. Vous êtes l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières et de Médecins du monde. Et il y a 30 ans, vous avez fondé la chaîne de l'espoir pour que des enfants de pays défavorisés soient aussi opérés et soignés. Alors pour fêter vos 50 ans d'engagement dans l'humanitaire, vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi un livre intitulé « Médecins du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières ». Qu'est-ce que vous avez ressenti, professeur Deloche, en vous retournant sur cette longue histoire, en termes de changement de la société, de la médecine, mais aussi de vous-même ?
50 ans, c'est un chiffre. C'est un demi-siècle. Et c'est vrai que je me suis concentré sur le début. Il y a encore une grande interrogation chez moi, c'est pourquoi tu en es là. Et donc de trouver l'origine, parce que l'engagement humanitaire, dans la médecine humanitaire, pour un médecin, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui dépasse le segment d'Hippocrate, qui est la base quand même. Hippocrate... Il est là tous les jours et partout dans le monde.
Oui, parce que vous auriez pu vous contenter, je le mets entre guillemets, voilà, d'être un grand cardiologue en France, voilà, mais pas de partir aux quatre coins du monde comme vous l'avez fait pour opérer, aider.
Je ne peux pas m'allonger. Et mettons que je m'allonge. C'est vrai que mes revenus, comme toute personne qui retourne un peu en arrière, à l'enfance et à l'éducation. Donc, ça, c'est le premièrement du premièrement. Finalement, ça me revient, mon éducation était protestante.
Vous le dites, j'ai grandi dans un monde calviniste rigoureux.
Voilà. Je ne suis pas critique, mais je ne peux pas, là, avec un certain recul, nier l'influence que j'ai eue de par mon éducation. Les pasteurs. Le pasteur Robert.
En particulier celui-ci, le pasteur Robert.
Le pasteur Robert, j'étais en pleine adolescence. Que fais-tu de ta vie ?
C'est la question qu'il vous posait. Lui, il était pasteur ouvrier en plus.
Pasteur ouvrier, le soir, il allait chez Renault. Et il transmettait son message comme des injections répétées. Oui, tu es sans doute un peu agité. J'étais hyperactif.
Hyperactif, pas très bon à l'école.
Je serais sous traitement aujourd'hui. Donc, on revient dans l'enfance. Et il y avait une autre personne qui, à l'analyse, a été très importante. C'est ma grand-mère. Lorsqu'un enfant est un peu perturbé, il faut qu'il ait un passeur. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a les pédopsychiatres.
Et vous, c'était votre grand-mère paternelle, je crois, la famille Mono.
La grande famille Mono. Et elle, je donne un exemple, elle dit, je sais que tu n'as pas le temps de lire ou tu ne veux pas lire, donc je vais te lire aujourd'hui un chapitre. Alors, elle revenait avec, il y avait soit Cyrano de Bergerac, soit le docteur Schweitzer.
Alors c'est le grand pasteur, médecin de Lambaréné.
Voilà.
Et il était de votre famille ?
Alors, on peut dire que c'est un grand-grand-oncle.
Et ça a été un modèle pour vous, quand vous étiez enfant,
je
veux devenir le docteur Schweitzer, le nouveau docteur Schweitzer ?
Pas aussi directement, mais l'influence pour nous, Schweitzer, c'était une icône. C'était une icône connue d'abord dans le monde entier. Prix Nobel de la paix, proche d'Einstein, etc. Et vous voyez, il y a encore eu un choc récent, c'est qu'il y a 4 ans, je me suis retrouvé devant sa tombe à Lambaréné.
Au Gabon.
Ça fait réfléchir quand même.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant là?
Une sorte d'émotion devant cette tombe. Et j'ai vu, il y avait comme... Maintenant, c'est un musée, son hôpital. J'ai vu son bureau. Je me suis assis dans son fauteuil. Et à ma droite, bien sûr, pour moi, ce n'était pas grand-chose, il y avait un orgue.
C'était un grand organiste aussi. Ouais. Et il finançait l'Ambarené grâce à ses concerts d'orgue.
C'était. Alors, il a essuyé pas mal de critiques que j'efface. Il était nuancé sur les progrès en médecine. Mais son message, au fond, pour le résumer, son message, c'est de dire chacun a son Lambaréné. C'est tout petit, cet hôpital. Mais c'était un symbole. Et de fait, pour moi, j'en suis sûr, c'est un précurseur de Médecins sans frontières. Il avait vu qu'il fallait partager la médecine.
Alors justement, professeur Alain Deloche, on le sent bien en vous lisant. Vous avez connu cette époque encore marquée par les colonies, marquée par l'image du bon docteur blanc. On vous prenait pour un bon docteur blanc quand vous avez commencé dans les années 70. Et le monde a quand même beaucoup changé. On n'a plus du tout ce rapport aujourd'hui avec les humanitaires.
Le bon docteur blanc m'a perturbé. C'est vrai que je peux le décrire. Donc, je me trouve dans une consultation à Brazzaville. Et à Brazzaville, la consultation, vous savez, comme il y a un siècle ou autre, se situe en plein air. J'étais censé voir que des enfants cardiaques. En fait, il y avait toutes sortes de malformations, dont des handicapés moteurs, etc. Mais on voyait tout le monde. Et à la fin de la consultation, il faisait très chaud, je transpirais un peu, et je demande au médecin, qui s'appelle Berthe, tant pis, qui est pédopsychiatre, pédiatre, elle a tout de la pédiatrie, bien sûr. Et je lui dis, Berthe, tous ces gens, ils ne me connaissent pas, comment ils m'appellent? Elle me regarde, mais vous êtes le bon docteur blanc. Or, c'est comme j'avais reçu un coup de massue, bon docteur blanc, c'est fini.
Est-ce que c'est pas fini cette image-là alors, du bon docteur
analysons
blanc?
Analysons les choses. Bien sûr, le terme n'est pas recevable, mais on peut l'analyser. Alors pour moi, d'abord, le docteur blanc, c'est l'Occident. Donc il faut se rappeler par là que on a beau dire, on a beau faire, la médecine a vu ses grands progrès à travers
l'Occident. Dans les années 60-70, cette période. Ouais.
Mais il est intéressant de rajouter le bon docteur blanc. Parce qu'il y a une exigence, il faut qu'il soit bon. Parce que s'il est mauvais, c'est terrible. Donc, au fond,
c'était la compétence, c'est pas simplement la gentillesse,
voilà,
là.
Voilà, c'est comme ça que je l'interprète.
Visage, Thierry Lyonnais.
Professeur Alain Deloche, on va revenir sur votre histoire personnelle, sur votre enfance. Parce que comment l'enfant agité que vous étiez, pas bon à l'école...
Cancre,
hein, vous utilisez le mot, quoi. Oui. Comment le cancre a pu devenir médecin et puis devenir le ponte que vous êtes devenu en médecine?
C'est-à-dire que je suis très solidaire des cancres. Alors moi, j'étais un cancre professionnel. C'est-à-dire quatre fois le bac, etc. etc.
Ah, carrément, quatre
ah,
fois
oui,
le...
carrément, ah, oui. Carrément, oui. Non, le vrai cancre. Et l'avantage du cancre, c'est qu'il a quand même éventuellement des réserves. C'est-à-dire, mon cerveau était vide.
Il y avait de la place pour les études de médecine. Quoi.
Surtout pour la médecine. Ouais. Il fallait. Je n'aurais pas pu faire une préparation polytechnique ou autre, ça exclut. Mais la médecine, l'entrée en médecine à cette époque était assez aisée. C'était pas un concours comme maintenant. Et donc, je partais à zéro.
Mais vous avez travaillé beaucoup à ce moment-là. Parce que je me souviens, vous m'aviez dit quand on s'était rencontrés des années, vous m'aviez dit, je suis rentré en médecine comme en vocation.
Comme en religion,
c'est ça.
Et là, évidemment, le cancre est transformé avec des parents un peu ébahis, ne reconnaissant pas, et comme si je voulais me prouver à moi-même et aux autres que finalement, le cancre, il est capable.
Il peut réussir.
Mais là, sinon, il est très culpabilisé, le cancre.
On l'a pas évoqué, Alain Deloche, dans la famille mono, oui. Et donc dans votre famille, on devenait soit pasteur, soit banquier, soit médecin.
Oui.
Pourquoi vous n'êtes pas devenu banquier
D'abord, j'ai voulu être pasteur.
Ou pasteur, parce que vous vouliez être pasteur.
Oui, bien sûr, pasteur de Robert. Banquier, je ne voyais pas. Et c'est ma grand-mère, encore une fois, qui, donc, bien sûr, fidèle, la tradition mono avait deux frères chirurgiens, deux frères banquiers et deux frères pasteurs. Donc, elle avait respecté dans sa famille.
Et donc, elle a senti chez vous plutôt le médecin.
Elle a senti la nécessité de me pousser vers la médecine et particulièrement vers la chirurgie. Et elle me disait une phrase absolument étonnante. Pour préparer le concours de l'internat, elle avait deux frères qui s'appelaient Fernand et Raoul. Et il n'y avait qu'un seul lit. Donc, il y en a un qui travaillait jusqu'à 2h du matin. Et l'autre qui se réveillait à 2h du matin pour prendre le lit tout chaud.
Ouais, c'est une bonne stratégie.
Alors, j'ai trouvé ça un petit peu, peut-être
c'est
un dur, peu
hein.
dur, quoi, l'étude de médecine.
Comme dans les sous-marins d'autrefois. Ouais.
Mais c'était une image. Voilà, oui. Comme j'écartais plutôt le banquier, le pasteur, peut-être, ça a
Donc,
été la
le chose. Choix de la médecine. Et alors, pourquoi la cardiologie? Comment est-ce que vous
ça,
êtes devenu
Ça, ce sont des
le...
rencontres. Et en médecine, on a des vocations, ce terme existait, en tout cas s'il existe moins, en tout cas il existait. Après, l'importance du compagnonnage et des rencontres en médecine est essentielle. Ça passait éventuellement par des grands patrons, parce que j'ai connu l'époque des mandarins, des grands patrons, comme on les appelait. Mandarins. Et ma rencontre, et ça c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans le livre, au fond, ces rencontres dans la vie sont essentielles. Donc, j'ai rencontré Alain Carpentier dans un laboratoire de recherche, parce que je faisais de la recherche également durant mon internat. Et il m'a dit, viens et suis-moi.
Wow, c'est évangélique, ça, encore. Ouais. Et vous l'avez suivi, vraiment, lui.
C'est-à-dire, j'étais dans le digestif. Je m'intéressais particulièrement aux greffes de foie. Et Alain Carpentier était un pionnier en chirurgie cardiaque à cette époque. C'est dans les années 60, hein, quand même, 62, 63.
Et là, on est vraiment dans la grande époque des recherches, des premières greffes du cœur. Vous avez vécu ces 30 glorieuses de la médecine. Là.
Exactement, dans la cardiologie, c'était... Il faut savoir que le premier cœur ouvert a été fait en 1955. Donc tout ça, c'était très récent. Et donc j'ai connu la naissance de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie moderne. C'était fou. Chaque année, il y avait une première au monde. Vous vous rendez compte? C'était emballant. Alors, l'inconvénient, c'est deux jours de nuit. C'est-à-dire que interne en chirurgie cardiaque débutante, la moyenne d'une opération, c'était 9-10 heures. Et quelquefois, il fallait reprendre le malade qui saignait beaucoup, etc. C'était vraiment une aventure, l'aventure du cœur.
C'est un organe particulier, le cœur. C'est presque l'organe sacré, c'est l'organe de la vie, on dit que c'est l'organe de l'amour. C'est pas rien d'ouvrir un cœur. Comment on vit cela quand on est chirurgien, comme vous l'avez été? Vous en avez ouvert combien de cœurs? Vous avez calculé?
Pas loin de 30 000.
Pas loin de 30 000. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a cette responsabilité au bout du bistouri d'ouvrir un cœur?
Alors si je vous disais que le cœur n'est qu'une pompe, vous allez être déçu. Parce que je pense que c'est un organe très chargé, comme on dit. C'est vrai que le foie n'est pas à la même position. D'abord, le cœur, on le ressent. On peut le sentir. On sent ses battements. Et c'est vrai qu'on peut greffer beaucoup de choses sur le cœur, le sacré, il a du cœur, etc., etc. Alors.
Mais c'est pas qu'une pompe.
Non. Je rajouterais une petit adjectif. C'est une pompe vitale.
Ouais. Parce que quand le cœur s'arrête.
Quand le cœur s'arrête.
C'est fini. Et donc, c'est le siège de la vie, ou c'est ce qui permet la vie, non?
Voilà, qui permet la vie. Non, mais par contre, je n'ai jamais trouvé l'âme dans le cœur. en opérant plus de 20 000 enfants, je n'ai pas trouvé...
On n'a jamais trouvé d'âme encore.
Non, on cherche encore.
On cherche encore. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez éprouvé, ressenti? Vous étiez, comment dire, complètement concentré dans vos gestes, le lien avec l'équipe qui vous entourait? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu de stress quand on est là et qu'on opère un enfant du cœur? Vous en avez opéré beaucoup sur ces tout petits cœurs.
Alors d'abord, c'est une chirurgie d'équipe. Donc, s'il y a des anxiétés, des émotions, tout est partagé. C'est une vraie équipe de 8 à 10 personnes obligatoires pour faire une chirurgie à cœur ouvert. À cœur ouvert. Donc, on arrête le cœur. C'est ça qui frappe, qui a un aspect quasi magique. C'est, on arrête le cœur et on l'ouvre. Donc, on a un cœur-poumon artificiel.
Donc toute la technologie qui est nécessaire pour permettre que la vie continue, mais que le cœur s'arrête.
Le cœur s'arrête. Et donc le poumon s'arrête aussi. C'est pour ça qu'on appelle la machine qui supplée durant la chirurgie à corps ouvert, s'appelle le cœur-poumon artificiel. C'était ça la base de la chirurgie cardiaque. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Mais le chirurgien, vous voyez, il faut... pas lui demander trop, il faut qu'il reste quand même technicien. On a une technique, on a des protocoles. Par exemple, il y a une phrase souvent qui frappe quand je la... C'est-à-dire, je suis remplaçable au milieu d'une opération. C'est-à-dire que c'est comme des pianistes, ils ont un morceau, alors on peut l'interpréter un petit peu de façon différente. Mais la base, je peux remplacer un chirurgien au milieu de son opération et la finir. Parce que tout est réglé dans les gestes techniques.
Oui, mais seul un chirurgien pourra remplacer un chirurgien. C'est pour ça, est-ce qu'il n'y a pas une solitude finalement du chirurgien au milieu de son équipe? Parce que c'est vous qui êtes le bistouri dans le cœur.
Surtout,
c'est pas l'anesthésie, c'est pas les infirmières.
Il y a une grande solitude quand cela va mal. Et là, on sent bien qu'il faut prendre les rênes et qu'il faut que, bien sûr, c'est mobiliser l'équipe sur un problème, mais lui est seul pour affronter. Et c'est là, il y a plusieurs chemins, faut prendre le bon. Parce que les autres conduisent à l'échec.
Et il faut décider, quoi. Et décider vite.
Et je crois que j'allais le dire, la qualité première d'un chirurgien, c'est pas l'habilité, c'est de savoir décider en fonction de ce qu'il observe.
Vous le dites dans le livre, un chirurgien qui serait hésitant, il est pas fait pour ce métier.
J'ai même dérouté du métier pas mal d'internes qui étaient trop émotifs et qui n'arrivaient pas à décider de son choix.
Alain Deloche, décider de son chemin, on peut en parler aussi sur le chemin de la vie qui a été la vôtre. Vous étiez chirurgien, vous êtes consacré à, oui, je disais, ces 30 glorieuses de la médecine que vous avez connues des années 60 aux années 90. Donc vous étiez professeur, très engagé dans les hôpitaux publics, toujours, vous avez fait toute votre carrière dans le public. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait vous engager aussi dans l'humanitaire, de faire ce choix d'être dans ces deux voies? Vous auriez pu vous contenter d'être grand ponte, cardiologue dans le public.
Alors, je vais revenir encore en arrière. C'est vrai que si on analyse les choses, tout passe quand même par des rencontres. Et il se trouve que j'ai fait ma médecine avec Bernard Kouchner. Alors, je lui parlais de l'omoplate, mais lui, il me parlait de Castro.
Ouais, déjà.
Là, oui.
Des engagements politiques.
Je voyais une certaine distance entre l'omoplate et Castro. Mmh. Mais en tout cas, lui avait opté Castro.
Donc, il faisait médecine, mais quand même, c'était la géopolitique qui l'intéressait déjà.
Absolument.
Bien
absolument.
Avant de devenir ministre des Affaires étrangères, quoi.
Et de la santé.
Et de la santé aussi.
Donc, on va reprendre, on peut reprendre la même phrase. Viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute pour moi, puisque je l'ai vécu en direct, que Bernard Kouchner est à l'origine du groupe Médecins Sans Frontières.
Et lui, le fondateur, c'est ça ?
Ils sont... On était 3, 4, 5, mais...
Parce qu'on vous présente souvent comme le cofondateur.
Oui, cofondateur, c'est-à-dire que tout est né, et on le sait, lors du conflit du Biafra, où Bernard Kouchner a été, avec quelques médecins, sur place, vivre un drame absolu.
Alors là, on est en 1968, oui, terrible drame, avec une famine organisée volontairement.
Il y avait tout pour le drame humanitaire, des enfants qui victimes de famine, des blessés, des quelque chose d'horrible qu'on a revécu après. Et donc, c'est à partir de ce conflit que Bernard et d'autres... Max Récamier, sur des noms qui ne sont pas très connus, ont décidé de faire un groupe Médecins Sans Frontières. Et c'est là où je voyais régulièrement Bernard à la faculté de médecine et qui
vous disait, allez, viens
ce soir,
il y a une réunion. Mais vous y alliez pas.
Beaucoup de réticence.
Ouais. Pourquoi de réticence. Pourquoi vous avez eu cette réticence au départ?
Je voyais pas. Oui, c'était magnifique, c'était beau. La charte de Médecins Sans Frontières, c'est magnifique. Mm-hmm. C'est magnifique, on signe tout de suite.
Mais je voyais le manque de moyens. C'était en 71, hein, la charte de...
72,
ouais.
Et donc, je voyais le manque de moyens, je ne voyais pas comment, à partir d'une belle idée, que l'on pouvait semer quelque chose qui allait transformer un peu le monde.
Mais alors, pourtant, cette envie de voyager... Vous l'aviez déjà enfant. Oui. Il y avait toujours l'oncle Albert Schweitzer qui était là derrière. Donc, à quel moment vous avez décidé de faire le pas et puis de partir sur le terrain et de partir en Afrique?
Non, ce qui était difficile, c'est ce que j'appelle la double vie, c'est-à-dire la vie à Paris, à l'hôpital public, de jour, de nuit, et puis la volonté de s'engager.
Et puis de partir, on partait pas une semaine, quoi. Non, c'est 15 jours, un mois, 2 mois.
Alors, j'ai été très prudent au début. J'ai fait quelques missions, mais au fond, je me suis vraiment, vraiment engagé dans les années 80. Et parce que dans les années 80, j'ai été nommé professeur, donc titulaire, donc...
Donc ça vous permettait de pouvoir partir plus souvent. Mais il y a quand même, professeur Alain Deloche, il y a quand même eu ce voyage... En 1974, vous avez 34 ans, vous partez pour la première fois vraiment sur le terrain en Afrique. Et là, ça a été un choc, ça vous a marqué. Vous êtes parti avec Frères des Hommes à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ça, c'était. Alors, je m'attendais à partir, à être appelé pour un cataclysme ou une urgence du monde, un tremblement de terre, etc. Et le message qui nous a été parvenu, c'est « Avons besoin d'un chirurgien à Fada Ngourma ». Fada Ngourma.
Il connaît Fada Ngourma en Haute-Volta.
Une bourgade en Haute-Volta.
Le Burkina Faso actuel.
Et je débarque dans un hôpital qui est un autre univers. Je me rappelle que j'ai à peine visité cet hôpital qui était... en survie, puisque bon, les locaux n'existaient pas. Alors, je me souviens de deux choses, que l'anesthésiste était un ancien cordonnier. Alors là, c'est un ancien cordonnier. Alors, il y a eu un problème dans les savates. Il s'est reconverti en anesthésie, et je l'avais trouvé plutôt bon.
Et puis, il y a eu Alain Deloche, il y a tellement de, pas d'anecdotes, mais de choses incroyables que vous avez vécues, où les vautours qui venaient se poser et qui sentaient que quelqu'un allait mourir. Mais vous avez eu une rencontre avec le marabout du lieu.
Alors là.
Et ça, ça a été fondamental.
Le marabout.
Adama.
Et alors, comment dire, il avait une, sûrement très religieux. Et une approche très intelligente. C'est-à-dire qu'il marquait son territoire, mais il ne refusait pas le mien.
Nous, quand on dit marabout, c'est le médecin traditionnel, en
oui,
fait.
Oui, alors c'est un peu peut-être méprisant. Ouais. Il faudrait mieux l'appeler le médecin traditionnel. Et il m'avait donné deux, trois vérités. D'abord, il m'interrogeait dans le fond, pourquoi vous êtes là, docteur Alain ? Il m'appelait docteur Alain. Mmh. Bon. Alors, il fallait répondre. Il fallait répondre pourquoi je suis là. Parce que, il m'interrogeait. Mmh. Il voulait savoir. Et puis après, en profondeur, il dit, nous n'avons pas le même métier. Nous n'avons pas le même métier. Mais enfin, on a chacun le sien. Moi, j'ai besoin de votre métier et vous devriez avoir besoin du mien. Mmh. Et donc, il m'a donné une grande vérité en médecine. Il disait, on peut excuser un médecin sur le diagnostic, mais on ne peut pas accepter le mauvais pronostic. Pour vous, les médecins blancs, comme pour nous. J'avais trouvé ça d'une très grande profondeur.
Et à partir de ce moment-là, l'Afrique est restée, comment dire, avec une place particulière dans votre cœur.
C'est-à-dire, quand on sort de Fada N'Gourma, c'est vrai, soit je disais plus jamais, soit je disais tiens, je suis assez ébranlé, je pensais à l'hôpital de Fada N'Gourma, bien sûr.
Mais c'est là, professeur Delage, le contraste absolument incroyable entre la médecine que vous viviez en France, voilà, de plus en plus technique, technologique, et puis arriver dans ces lieux où c'est le même corps, c'est des mêmes êtres humains, et là, pas de moyens.
Pas de moyens. Ouais. Alors ça, c'est très dur à vivre.
Comment on vit ça ?
Alors d'abord, ça explique beaucoup la médecine humanitaire moderne. C'est-à-dire, il s'est passé entre 70 et l'an 2000, ou 60 et 90, comme vous voulez, 30 ans. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses en médecine. Là où tout s'est fait. Et il y a la moitié du globe, voire les deux tiers du globe, qui n'ont pas suivi le progrès. Les progrès, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les maîtrises du diabète, ce que vous voulez, cardiovasculaire, infarctus, tout. Je vous rappelle, par exemple, que moi, j'ai connu, étant interne et externe, le traitement par les sangsues. Mais ça marche, les sangsues. Lorsqu'on est en œdème pulmonaire, suffocant, on appelait le bocal des sangsues.
Et on mettait des sangsues. Et c'était remboursé par la sécurité sociale.
Pris en charge. Mais après, nous, on sait scientifiquement pourquoi le traitement par sangsues marche. Donc, pour revenir, c'est vrai que là, j'ai vécu, je vis toujours ce que j'appelle le gouffre qui sépare un tiers de la planète ou la moitié de la planète de l'autre moitié.
Et c'est encore vrai
c'est
aujourd'hui.
Encore vrai, bien sûr.
Vous le constatez.
Chaque mois, il y a des progrès en médecine. Chaque mois, chaque
en Occident,
jour.
Ou, en Occident. Ou dans les pays émergents. C'est-à-dire en Chine, ça a changé, j'imagine, en Inde aussi, mais l'Afrique n'a pas beaucoup évolué.
Oui, disons que oui, il y a un bon tiers de la planète. La Chine est intermédiaire. Intermédiaire, c'est là vraiment l'humanitaire. Au départ, a été centré. C'est centré sur les urgences du monde, soit des conflits, soit des catastrophes naturelles. Mais les années passant, l'axe de l'intervention de l'humanitaire aujourd'hui, c'est de combler le déficit qui existe entre beaucoup de pays et le nôtre.
Visage, RCF.
Professeur Alain Deloche, vous nous l'avez dit, à partir des années 80, là vous allez commencer à partir beaucoup, beaucoup sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y avait deux axes, soigner et transmettre. On peut dire que ça a été ça, votre action humanitaire à
C'est-à-dire
partir
que
de...
le transmettre, faire partager sa connaissance, ça ouvre l'avenir. Parce que si on ne partage pas son savoir, sa technicité, son savoir-faire, on ne voit pas ce que, on va éterniser la substitution. Donc, c'était évident qu'il faut partager.
Donc, vous partiez former des médecins locaux, des chirurgiens locaux.
Tout à fait. Et ça, c'était vraiment, enfin, je veux dire, pas un succès, parce que je n'aime pas ce terme, mais disons, on a eu des réalisations assez étonnantes.
Dans quel pays en particulier?
Par exemple, je prends un exemple. Avec Alain Carpentier, nous avons fondé un institut du cœur au Vietnam.
Donc là, on est après la guerre du Vietnam.
Oui, 79,
le pays essayait de sortir de la pauvreté après la guerre.
Oui, c'était effrayant, l'état du Vietnam. Et donc, on a bâti et formé une équipe vietnamienne qui était, bien sûr, pas au niveau, mais enfin, ils sont restés plus d'un an en France, etc., etc. Et figurez-vous que cette équipe vietnamienne vite autonome est devenue un centre, grâce à cette équipe, de formation. Et 15 ans plus tard, nous avons formé l'équipe du Sénégal au Vietnam.
Et c'était des Vietnamiens qui formaient les Sénégalais. C'est une belle transmission, ça.
C'est ce qu'on appelle le jargon du Sud-Sud. Mm-hmm. Et c'est l'avenir. Il n'y a pas de doute, c'est l'avenir. Il faut partager et développer le Sud-Sud. Mm-hmm. Ça, c'est un début majeur. Mm-hmm.
Professeur Alain Deloche, quand on lit votre livre, La médecin du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières, on voit tous les pays où vous avez été, les incroyables expériences que vous avez vécues sur le terrain. J'aimerais qu'on parle un peu de la médecine de guerre. Parce que ça, c'est un autre aspect que vous avez connu, côtoyé. Qu'est-ce qui vous fascinait? Parce que vous utilisez ce mot à un moment, quand vous étiez jeune, fin des années 70, vous dites « j'ai été fasciné par la médecine de guerre ». Qu'est-ce qui vous fascinait tant?
D'abord, pour être plus précis, j'avais un livre de chevet, parce qu'il ne faut pas exagérer, qui était « Les souvenirs du chirurgien de Dien Bien Phu », qui est un type assez étonnant. Et c'est vrai que pour le chirurgien, dans une situation de guerre, il est à la base, parce qu'il est blessé, et blessé égale chirurgie. Mm-hmm. Tout de suite, le domaine. Mais c'est un autre monde. C'est un autre monde de par la gravité des blessures. Et je dirais même plus, c'est une situation absurde, nous dirait Camus.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est de l'homme qui blesse l'homme.
Et l'homme, qui doit réparer, la blessure.
C'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. Surtout quand ces blessures, alors, touchent les civils, les enfants. Mon cauchemar, encore maintenant, je trouve ça, situation cauchemardesque, que d'amputer un enfant d'une dizaine d'années.
Qui a sauté sur une mine antipersonnelle.
En général, c'est les mines. Ouais. Quelle saloperie, les mines.
Le summum de l'horreur, vous le dites, c'était l'Afghanistan. Quand les mines étaient des jouets.
Des formes de jouets.
L'homme a pu aller jusqu'à...
Le perroquet vert.
Et les enfants, on croyait que c'était un jouet, le prenaient et sautaient sur la mine.
Oui. Et alors, soit c'était les membres inférieurs, soit les mains et le visage. Mm-hmm. Non, j'ai trouvé ça l'horreur. Alors, c'est là où j'ai décrit dans mon livre, dans un chapitre. On perd ses repères.
Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit, professeur Deloche, quand on est médecin, qu'on a fait serment d'Hippocrate, qu'on est là pour soigner, guérir, et qu'on est face à des enfants, des hommes, des femmes qui sont mutilés, blessés par, finalement, la haine humaine?
Une sorte de révolte. D'abord, le premièrement, c'est qu'on apporte quand même un soin, parce que ce qu'il y a de pire, c'est de voir quelqu'un mourir faute de soins dans une période de guerre. Donc déjà, prendre en charge les blessés avec une certaine technicité. Mais en arrière-fond, surtout lorsque ce sont des enfants qui sont victimes de la guerre, c'est l'absurde devant la situation. Oui, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que d'amputer un enfant des deux jambes. Alors, on le fait parce que quelqu'un doit le faire. Le geste d'ailleurs est assez sommaire. Faut pas. Mais ça ébranle.
Mais c'est pour ça, Alain Deloche, que lorsqu'on est médecin humanitaire, qu'on va sur le terrain, qu'on voit ces injustices, ces horreurs, on ne peut pas faire autrement que de s'engager, géopolitiquement parlant, ou politiquement parlant.
Oui, enfin, disons que de toute façon, on va vous mettre une étiquette. Parce que la neutralité est difficile.
Ben oui.
La neutralité. Alors, nous, on soignera l'un ou l'autre des camps, des blessés de chaque camp, bien sûr. Mais enfin, le problème, c'est qu'on vous mettra une étiquette, ça dépend dans quel camp vous êtes. Là, au conflit ukrainien, vous n'allez pas aller voir les Russes pour les aider, vous allez vers l'Ukraine et donc du côté de l'Occident. Chaque fois,
vous devez choisir votre camp. Donc, ça veut dire qu'il y a un engagement quelque part. L'Afghanistan, prenons l'exemple de l'Afghanistan, où les French Doctors ont été très, très impliqués. Je pense que énormément, et votre ami Éric Chesson est encore impliqué en Afghanistan aujourd'hui. Vous avez été tous très impliqués en Afghanistan. Vous avez choisi.
Il n'y a pas de doute, on avait choisi un camp.
Vous étiez contre les Russes et vous soignez les Moudjahidines.
C'était une époque où il y avait deux camps. Le camp communiste et le non-communiste. Et en effet, moi j'ai connu l'époque de l'Afghanistan où nous étions French Doctors sous les bombardements des hélicoptères russes. Ça, c'est, il n'y a pas de doute qu'on choisissait un camp. Donc, alors, Kouchner disait qu'il fallait varier les camps.
Il disait ça.
Il disait, là, on est sous les bombes russes et puis on peut aller dans un autre pays qui atténue. On n'est pas uniquement...
Mais vous voyez, ma question, c'est est-ce qu'on peut pratiquer cette médecine humanitaire sans, quelque part, être engagé politiquement
C'est-à-dire, vous avez vu même socialement. Rappels à l'ordre, parce que si vous choisissez un camp vraiment, vous pouvez trouver... Par exemple, prenons l'exemple de l'Afghanistan. On est parti fleur au fusil aller du côté des perdants pour sauver des vies et militer du côté des Moudjahidines. Mais de fait, parmi ces Moudjahidines, il y avait la graine du Ben Laden et des islamistes
et des talibans qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Donc c'est là où Bernard Kouchner me disait toujours, tu verras Alain que les extrémistes sont là.
Et il avait raison.
Et il avait raison.
Vous nous avez parlé de deux hommes qui ont beaucoup compté pour vous, Alain Deloche, Alain Carpentier, le chirurgien cardiaque, Bernard Kouchner. Et puis, il y en a un troisième. J'aimerais qu'on parle de cet homme. C'est le père Sérac, un jésuite que vous avez connu dans les camps en Thaïlande.
La frontière de la Thaïlande.
Quand les Cambodgiens étaient persécutés par leurs frères cambodgiens, les Khmers Rouges, vous avez rencontré le père Sérac. J'aimerais que vous nous parliez de cet homme. En quoi il a été un éléphant blanc, pour reprendre cette expression que vous aimez bien quand vous parlez de ces hommes qui vous ont profondément marqué?
C'est une des grandes rencontres de ma vie. Alors d'abord, le père Sérac, dans son allure, l'allure de Gandhi. Et d'ailleurs, il a passé près de 50 ans en Inde, quand même.
À s'occuper des enfants de la rue.
Des enfants, des orphelinats, etc. Non, mais lui a fait la jonction entre l'Inde et l'Occident. Et moi, j'ai capté ses paroles. Ses paroles étaient très simples. Vous avez deux grandes tendances dans le monde, disait-il. Vous avez l'Inde, les pensées de l'Inde, c'est l'être et l'amour. Et vous avez l'Occident, c'est l'avoir et le faire. Alors déjà, on partait dans des débats philosophiques. C'est l'avoir et le faire. Alain, quand tu opères un enfant au Cambodge, tu fais un acte technique, c'est l'avoir et le faire, c'est l'Occident, c'est très bien. Mais ton geste est plus important que l'aspect technique. Ton geste, c'est un geste d'amour et symboliquement fort. Et ainsi de suite, il me disait toujours, Alain, il faut avoir une grande vision et des petits gestes. des petits gestes, comme ça. Et surtout, surtout, la valeur du symbole. Ton acte est symboliquement fort. Allume des bougies. Lui, c'est grandi. Chacun sa chanson, etc., etc. Et donc,
c'est interpellant. Jour, excusez-moi, c'est interpellant pour l'occidental que vous étiez. Il mise apaisant. Beaucoup sur le faire, sur la qualité du fer. Et lui, il vous disait, sois dans l'être.
Exactement.
Dans l'être la qualité de la relation et l'amour. Ce que tu fais, fais-le avec amour.
Voilà. En tout cas, ton geste signifie quelque chose qui est un geste d'amour.
Et tu sèmes.
Un jour, j'étais en consultation avec lui, parce qu'il adorait l'hôpital. Je vais en salle d'op. Et puis, je faisais la consultation. Puis, à la fin, je lui dis, parce que ce qui est extraordinaire chez le Pierre Sérac, c'est que vous lui posiez une question, et il y avait un silence avant qu'il ne réponde. Un silence. À la fin de cette consultation, je dis, alors, Pierre, ça signifie quoi, là, cette consultation qu'on vient de faire? Il me regarde avec du silence. En faisant cela, tu sèmes dans l'univers.
Ça, c'est resté gravé en vous. Comment vous l'avez accueilli, cette phrase? En faisant cela, tu sèmes dans l'univers.
C'est-à-dire que nous, vous comprenez, notre problème en général, à la médecine humanitaire, c'est que vous allez prendre en charge 100 enfants, mais il y en a 1000 qui attendent. Donc, c'est une situation qui peut être délicate, et Pierre Sérac dit, tu peux en opérer 100, cet acte est symboliquement fort, pourra permettre une mobilisation plus grande pour prendre en charge les 1000. Enfin, c'est un maître à penser et il nous manque.
Professeur Alain Deloche, j'aimerais qu'on parle maintenant de la chaîne de l'espoir.
Oui.
Comment est né ce projet de cette chaîne de l'espoir que vous avez fondée, que vous avez dirigée pendant des années, avant de passer la main comme président à Éric Chaisson? Comment est né ce projet de la chaîne de l'espoir? Ça a été fondé en 1984, hein, en fait.
Les 88.
88
et 94 officiellement.
Ah.
Permettez-moi donc comment est née la chaîne de l'espoir? Alors vous êtes rationnel et vous avez sans doute étudié les besoins. On se réunit et on essaye de mettre en face de ces besoins des moyens pour résoudre le problème.
C'est ce que vous aviez fait au début, c'est ça? Vous
c'est ce qu'on pourrait penser que j'ai fait au début. Pas du tout. Ça rappelle les découvertes en médecine, ou comme beaucoup de découvertes, beaucoup de découvertes en médecine. Donc, il y a, comme une réaction chimique, un catalyseur. Donc, tout était prêt en moi. Nous sommes en novembre 88. Je suis, il est 6h du soir, c'était un vendredi. Et une femme de cœur arrive, Madame Rouget, avec deux choses. Elle cognait à ma porte de désespoir. Une femme de cœur. Elle arrivait avec un dossier d'un enfant malade du cœur du Sénégal. Et elle avait dans sa main gauche une facture de l'hôpital Foch, parce qu'elle avait amené un enfant, toujours du Sénégal, pour y être opéré à Paris, sans rupture. Et elle voulait que je puisse résoudre les deux choses. Et moi, comme un éclair, réaction chimique, j'ai écouté madame, on va pas faire du one shot, c'est-à-dire de faire un cas bricolé, on va créer ensemble une structure, et tenez, on va l'appeler la chaîne de l'espoir.
Et donc votre objectif était vraiment d'aider à soigner des enfants malades du cœur sur le terrain, en Afrique, en Asie,
d'abord,
dans différents pays, et puis aussi
les faire venir
pour les opérer
le
en France.
Le premier geste, c'était de les faire venir en France. Et ça, c'est 88. Et donc, la chaîne de l'espoir est vraiment née. D'abord, elle est née au sein de Médecins du Monde, et ensuite, légalement, est née en 94.
Donc l'idée, c'était de les faire venir parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques de les opérer en Afrique ou au Cambodge.
Alors bien sûr, pour un médecin, c'est pas très satisfaisant de faire venir des enfants en France. Et très vite, on a songé à opérer les enfants dans leur pays avec des équipes médicales de leur pays.
Donc ça voulait dire former et bâtir.
Et c'est ce qui s'est fait en 30 ans. Parce que maintenant, je prends un exemple. Vous voyez, on opère environ 5000 enfants par an dans 32 pays. Et on en fait venir à peine une centaine en France chaque année. Vous voyez, ça y est.
Vous faites venir ceux qui ne peuvent pas ou qui sont les plus délicats.
Ceux qui ont aucune solution locale. Bien sûr,
parce que ça demande de l'accueil en France.
L'accueil, etc.
Ouais, c'est plus compliqué. Ouais.
Oui, non, bah, on y est. On a opéré plus de 15 000 enfants en France, quand même.
Donc, venant de 30 pays différents.
Oui, 32.
Vos objectifs, aujourd'hui, pour la chaîne de l'espoir, parce que là, vous fêtez vos 30 ans, quels sont vos objectifs, vos priorités?
Et être adapté au monde qui change. Dans tous les domaines. Tout change. Le monde dans lequel on est un monde qui est connecté. Et ça, c'est une révolution. Internet est une révolution en médecine, déjà, pour le partage des connaissances, pour l'échange. Le monde est tout petit. Le monde est tout petit. Moi, demain soir, j'ai un staff avec des Africains de Ouagadougou, d'Abidjan et de Dakar.
Donc, vous allez être dans votre bureau à Paris et vous allez être en relation avec eux par WhatsApp.
Il y a les équipes françaises qui sont... Ça, c'est incontournable.
Ça a révolutionné votre vie.
Révolutionné. Le deuxièmement, je dirais, c'est être bien en phase sur ce qui se passe dans le monde et cette volonté du partage et d'autonomie, si on peut dire. Si on arrive maintenant dans un pays et dit « je vais vous aider », déjà, faut faire attention à la terminologie. Tout de suite, vous aider, vous voulez quoi prendre? Non. On va vous aider. On va coopérer. Co, c'est avec.
Alors, et ça, c'est le grand changement par rapport à ce que vous avez connu dans l'humanitaire il y a 50 ans.
Bien sûr. C'est une révolution.
On venait aider et maintenant, on travaille ensemble.
Voilà. Ensuite, le troisièmement, c'est maîtriser les flux financiers, car l'humanitaire, avec un grand H qui dépasse la médecine humanitaire, etc., c'est une cause mondiale où il y a beaucoup d'enjeux, finalement, les enjeux qui peuvent être dangereux, éventuellement des récupérations politiques et tout, mais je voudrais souligner l'aspect financier. Quand nous avons commencé Médecins sans frontières, il y a très peu d'argent. Les dons étaient minimes, Médecins sans frontières a plus d'1 million de donateurs, par exemple.
Aujourd'hui, hein.
Et puis, la plus grande aide vient de l'Union européenne. Et des milliards. Donc, tout ça bouscule. C'est bien parce que c'est utile pour le monde, c'est pas assez, c'est jamais assez. Mais néanmoins. Et donc, il faut gérer ces nouvelles approches. En particulier sur le plan financier. Donc, les grandes ONG se professionnalisent. C'est-à-dire que maintenant, il y a des salariés, et ça, c'est bien. C'est-à-dire, mais c'est nouveau.
Ça aussi, c'est un grand changement dans le monde de l'humanitaire. Avant, vous étiez des bénévoles, vous étiez presque tous des bénévoles, des volontaires, on disait volontaires. Aujourd'hui, ça se professionnalise.
Oui.
Et vous, vous dites, c'est une bonne chose.
Je pense que c'est une bonne chose.
Ils ont perdu leur âme. C'est devenu du business.
On n'a pas perdu l'âme, c'est différent. C'est différent et c'est presque une obligation. C'est presque une obligation pour assumer cette aide officielle des grands. Il y a l'Union européenne, il y a l'ONU, il y a.
Parce qu'il faut faire des dossiers de plus en plus compliqués pour recevoir ces aides.
Le suivi budgétaire. Mmh. Et je rajoute un quatrième point qui existait avant, c'est le danger. C'est la sécurité. Alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que nous sommes devenus, dans certains pays, des cibles. C'est-à-dire, surtout, ne mettez pas un petit drapeau blanc qui sera un mauvais signal.
Alors ça aussi, c'est un gros, gros changement dans le monde de l'humanitaire. C'est-à-dire que quand vous partiez au Burkina Faso dans les années 70, vous étiez le bienvenu, vous circuliez tranquillement. Aujourd'hui, même pays, vous êtes une proie. Vous risquez d'être
une cible.
Vous êtes pris en otage, ou une proie. Pour être pris en otage.
Oui, otage. On a une valeur marchande.
Et ça, dans beaucoup de pays.
Beaucoup de pays, de plus en plus de pays.
Niger, Mali, Burkina Faso.
Je sais que le Quai d'Orsay donne des couleurs au pays et les pays rouges sont en danger.
Et c'est là où il y a le plus de travail au niveau de l'humanitaire.
Bien sûr, c'est là où il y a le plus de travail.
Alors, comment vous gérez ça aujourd'hui avec vos équipes? Quand vous avez un médecin, des infirmières qui vous disent est-ce que je pars, est-ce que je pars pas là-bas?
Alors d'abord, on se professionnalise aussi dans ce domaine. Il y a des experts de la sécurité qui vous donnent des conseils à partir de renseignements et qui caractérisent un pays sur le plan de la sécurité. Alors après vient ce grand débat de la prise de risque. C'est-à-dire qu'on prévient et on a évidemment là une problématique qu'il faut résoudre parce que que peut-on dire à une jeune infirmière qui dit « j'ai bien réfléchi, je trouve ça extrêmement dangereux », comme partir en montagne, vous voyez, alors que les orages sont annoncés. Une
menace sur vos têtes, oui.
Donc
vous comprenez aujourd'hui ces jeunes infirmières, médecins qui hésitent à partir.
Le problème pour nous de l'assurance, presque. Bien sûr, il y a des systèmes d'assurance, mais enfin, l'assurance vie, en ce cas-là, c'est pas très... C'est de dire, on ne peut pas forcer une jeune infirmière de 25 ans. Vous êtes conscient des risques. Il faut être très raisonnable et justement avoir dans beaucoup d'ONG des systèmes de sécurité qui permettent de dialoguer.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut déléguer davantage aux personnes locales?
Bien sûr, les locaux, faut toujours écouter les locaux. Et donc, pour les enlèvements en particulier. Et donc, il y a également une tendance qui se fait, qui pourra progresser, c'est d'utiliser les forces locales, les forces médicales locales. Et donc, c'est ce qui s'appelle le système de bunkerisation. C'est-à-dire, vous vous isolez et vous faites travailler le personnel local.
Ce qui se passe en Afghanistan, par exemple.
Par exemple.
Est-ce que ça veut dire que l'humanitaire de demain ne sera plus vraiment occidental? Est-ce qu'on est en train de vivre un changement profond? Et l'humanitaire de demain pourra aussi bien venir.
Mais est-ce qu'on à ce moment-là, on aura peut-être tout réussi? C'est le bon docteur blanc, on n'en a plus besoin.
Et ce sera le docteur local.
Ce sera le docteur local.
Je pense, au Rwanda, par exemple.
Oui, bien sûr.
Il n'y a plus besoin de médecins blancs au Rwanda. Il y a suffisamment de médecins.
Très peu. Non, là, c'est le changement du monde. C'est le changement du monde. Mais c'est bien, parce qu'on veut partager, une fois que le partage. Mais il y a encore du boulot.
Visage, l'expression de l'être.
Professeur Alain Deloche, on arrive. À l'issue de cette interview, vous avez réalisé ce livre « Médecin du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières », une relecture de tout ça.
50 ans, c'est beaucoup.
C'est pas mal, 50 ans d'engagement. Là, vous avez 80 ans maintenant, donc vous relisez votre vie. Finalement, qu'est-ce qui aura donné du sens à votre vie?
Deviens ce que tu es, disait ma grand-mère.
Alors, deviens ce que tu es.
Deviens ce que tu es. C'est Nietzsche.
Ouais.
Je crois que c'est Nietzsche.
Ça veut dire que vous aviez ça en vous?
Ben, j'avais la volonté d'être quelqu'un, oui, qui me ressemble un petit peu. Bien sûr. Non, j'ai très peu de regrets. Bien sûr, on a le regret de ne pas en avoir assez fait et de penser que la vie va très vite. La vie va très vite. Et c'est vrai que, grosso modo, je regrette pas. Je le regrette pas.
Et qu'est-ce que vous voudriez dire à un jeune médecin
qui
vient juste de finir là, lui aussi. C'est très évangélique depuis que je vous écoute. Viens et suis-moi.
Chemin de Damas.
Ouais.
Non, jeune, je lui dis, c'est des messages éternels. Deviens ce que tu es, un jeune stagiaire. Réfléchis à ce que tu es et ce que tu veux devenir.
Mais souvent, on le sait pas quand on est jeune ou quand on est jeune médecin. On sait pas qui on est vraiment au fond.
Au fond, la médecine humanitaire, c'est grosso modo de savoir dire oui alors que le non est plus facile. Est-ce que tu veux venir avec moi au Burkina Faso? Oui. C'est plus facile de dire non. Ben non, je reste chez moi. Les problèmes du Burkina Faso, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai dit, fais attention.
Mais vous le savez, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui veulent travailler 4 jours par semaine, plutôt dans des villes.
Oui.
Je ne jette pas la pierre, mais vous le savez, aujourd'hui, ils veulent pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leurs loisirs. L'humanitaire,
c'est
pas vraiment ça.
Les enfants, ils sont très fiers que leur papa ou leur maman aient fait ou vont faire de l'humanitaire aussi. Mmh. Aussi.
Mais qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y gagne à faire de l'humanitaire? Plutôt que de rester dans son cabinet où on voit défiler...
Il ne faut pas nier que l'on part en mission, le terme mission, on part en mission pour soi aussi, pour les autres. Oui, mais pour soi aussi.
Ça transforme.
Moi, je pense.
Profondément.
Oui, on ne peut pas ne pas être insensible. Non, c'est... Alors, les jeunes sont quand même très adaptés au monde moderne. Donc, ils vont tout de suite trouver leur voie à eux, qui n'était pas la nôtre. Viens, suis-moi, quand j'étais avec Kouchner dans les premières années de médecine.
Et Alain Deloche, pour terminer, qu'est-ce que vous avez appris finalement d'essentiel sur la vie suite à tous ces engagements que vous avez pu vivre sur le terrain et dans le lieu d'opération, dans vos hôpitaux?
Je me référerai au père Sérac. C'est-à-dire que si ton geste n'est pas uniquement technique, mais un geste d'amour, c'est assez réconfortant. C'est-à-dire que si c'était uniquement de la technique, non. Et je terminerai sur... j'ai été content de travailler sur le cœur pendant des années, et ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'on a pu remplacer un cœur par un autre. Parce que là, c'est un autre univers.
Merci beaucoup, professeur Alain Deloche. J'étais ravi de vous retrouver des années après notre première rencontre. Et je recommande votre livre « Médecin du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières » que vous avez publié aux éditions du Cherche Midi. Oui. Les lecteurs découvriront encore bien des choses que vous avez vécues. Merci.
Merci.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.